Bonjour à toutes et à tous, bon début d'après-midi à l'écoute d'Altitude et bienvenue dans cette petite émission spéciale consacrée au cinéma. Aujourd'hui, dans les salles obscures, c'est la sortie du film Jumeaux mais pas trop, une comédie avec Ahmed Silla, Bertrand Huskla et Pauline Clément. Le vendredi 9 septembre, l'équipe du film était au CGR Angoulême pour une projection en avant-première. L'occasion de les rencontrer et de leur poser quelques questions, on écoutera cet entretien dans un instant. Mais avant cela, on va d'abord parler du FFA. Du 23 au 28 août à Angoulême, c'était l'édition 2022 du Festival du film francophone. Des cinéphiles plein les rues du centre-ville, des stars de cinéma à l'hôtel Mercure et bien sûr des films, beaucoup de films. Et voici le compte-rendu de mon FFA. Le jour où Dieu est parti en voyage, un film sorti en 2009, réalisé par Philippe Vanleu et projeté dans le cadre de l'hommage au cinéma rwandais de l'édition 2022 du festival. Le film prend place en 1994 au début du génocide rwandais. Une famille occidentale est rapatriée par l'armée et sur place, elle laisse la nourrice en lui semant de se cacher dans la toiture. Cette dernière, inquiète pour ses enfants, s'échappe pour les retrouver. Le film nous montre presque sans dialogue le quotidien de cette femme qui se cache pour survivre. Ses rencontres, ses péripéties, ses ressentis et ses décision dans un climat politique où les êtres humains sont considérés comme du gibier par d'autres êtres humains. Juste avant la projection, un des intervenants, journaliste rwandais chez Radio-Canada, nous donne le double sens du titre, le jour où Dieu est parti en voyage. Le sens premier fait référence à un proverbe rwandais qui dit que Dieu revient tous les soirs au Rwanda, d'où son départ en voyage en 1994 pendant la durée du génocide. Le second sens fait référence à tous les hommes d'église, soupçonnés d'avoir préparé et organisé le génocide, qui ont mystérieusement quitté le pays et ne sont jamais revenus depuis. Certains étant toujours en Belgique et en France, et pour l'heure, jamais inquiétés. Rumba la vie, une comédie de Franck Dubosc avec Luna Espinosa, sortie le 24 août dernier pendant le festival. L'histoire d'un chauffeur de bus scolaire aigri qui, à la suite d'une attaque cardiaque, décide de se rapprocher de sa fille qu'il avait abandonnée 20 ans plus tôt. Pour faire sa connaissance, sans lui révéler son identité, il s'inscrit au cours de danse qu'elle donne. Le film est présenté comme une comédie et les situations cocasses ne manquent pas, mais cela n'empêche pas, dans la narration comme dans le jeu des personnages, de mettre en scène la complexité et la difficulté d'une relation père-fille, les erreurs de jeunesse et du temps perdu. Par moments, on trouve certains traits d'humour qui auraient eu leur place dans des productions plus potaches, notamment des personnages un tantinet clichés, mais heureusement secondaires. Ça dénote un peu, parfois, à se demander si Franck Dubosc a voulu faire un clin d'œil au public de ses précédents succès, ou s'il s'est juste fait plaisir. Le film a nécessité 4 ans de travail et 8 semaines de tournage, pour un résultat d'une heure et 43 minutes qui se regarde sans forcer. Une comédie donc sur la famille, l'amitié, le temps qui passe et la danse. Mention spéciale à Michel Houellebecq qui incarne un médecin défendant la pratique sportive et mettant en garde contre le tabac. La page blanche de Muriel Magellan avec Sarah Giraudeau, Pierre Deladonchamp et Grégoire Ludig. Librement inspiré de la bande dessinée du même nom de Pénélope Bagieu et Boulet, le film est sorti le 31 août dernier, juste après le festival. Une femme se réveille sur un banc en plein milieu d'un petit quartier parisien. Qui est-elle? Que fait-elle là? Quelle est sa situation? Elle n'en a aucun souvenir, amnésie totale et pas de téléphone sur elle. Son périple va être de peu à peu découvrir sa vie d'avant et, situation exceptionnelle oblige, à la reconsidérer avec un regard neuf, débarrasser des habitudes et réflexes du passé. Le style du film est volontairement léger, naïf, pour mieux être en accord avec le ressenti du personnage principal Héloïse, qui découvre, parfois maladroitement mais pleine de curiosité, quel était son style de vie, ses fréquentations, ses goûts et ses habitudes. Le film est une invitation claire à sortir un tant soit peu de sa routine et à prendre un peu de recul sur sa vie, ses choix, avec un regard certes un peu naïf, mais souvent rafraîchissant. Divertimento, un drame musical tiré d'une histoire vraie, réalisé par Marie Castille mention Scar avec Oulaya Amamra et Lina El Arabi. Le film, qui se déroule au milieu des années 90, raconte l'histoire vraie des sœurs Ziwani, Zaya et Fetouma, deux enfants bercés à la musique classique et qui voudraient, pour l'une, devenir chef d'orchestre et pour l'autre, violoncelliste professionnel. Issues d'un milieu plus modeste et populaire que les candidats habituels à ce genre de métier, les sœurs Ziwani, soutenues par leurs parents, intègrent une prestigieuse école de musique parisienne. S'ensuit un périple parsemé d'obstacles, venant autant du mépris et de la jalousie des gosses de riches et de l'idéologie d'excellence sous couvert de bienveillance, que les impasses financières et politiques de leur milieu social. La question des moyens financiers des parents n'est pas clairement abordée, on voit juste qu'ils poussent leurs enfants à s'élever socialement via la musique, là où eux sont des mélomanes ordinaires et passionnés. Le film met avant tout l'emphase sur le récit de la passion qui dévore Zaya et Fetouma. Cette envie et ce combat pour se faire une place et un nom dans un milieu hostile qui leur rappelle régulièrement qu'elles y sont étrangères. Le film, des mots mêmes de sa réalisatrice, est un appel à la persévérance et à la reconnaissance des femmes issues de classes modestes dans un milieu majoritairement masculin et bourgeois. Cerise sur le gâteau, les actrices Oulaya Amamra et Lina El Arabi ont été conseillées et entraînées par les véritables Zaya et Fethouma Ziwani. Et pour le plus grand bonheur des mélomanes ayant réservé leur place pour la projection du FFA, un petit concert classique dirigé par Fethouma Ziwani elle-même. Une belle expérience. Habib, la grande aventure, une comédie de Benoît Mariage avec Bastien Huguetto, Sophia Le Saffre et Thomas Soliveres. Habib est un jeune aspirant acteur, mais à son grand désarroi, il ne trouve que des petits rôles sans envergure et certains clichés lui collent un peu trop à la peau. Il place alors ses espoirs dans une pièce de théâtre sur la vie de Saint François d'Assise pour faire reconnaître son vrai talent de comédien. Il s'investit corps et âme dans le personnage, quitte à le vénérer et se rêver lui-même en Saint François d'Assise contemporain. Un jour, il passe une audition pour un rôle avec la prestigieuse Catherine Deneuve, mais c'est un petit rôle difficile à assumer pour Habib, qui a le sentiment que certains clichés lui collent définitivement à la peau. S'ensuit alors un enchaînement de situations cocasses où Habib se retrouve tiraillé entre ses désirs de carrière et de reconnaissance et les attentes de sa famille, ses amis et son entourage plus ou moins proche. Le film creuse l'absurdité de la vie sous l'angle de nos aspirations professionnelles, notre quête d'identité et notre besoin de reconnaissance. Le film fait le pari de mettre en scène ces situations absurdes avec une touche subtile qui peut autant provoquer le rire que susciter la compassion. Et c'est un pari réussi, car on se prend d'affection pour Habib dans chacune de ses tribulations pour échapper, parfois maladroitement, à l'étiquette d'arabe de service que toute une profession n'a de cesse de vouloir lui coller. Sortie du film prévue le 22 février 2023. Neptune Frost, un film d'Anisia Uzeyman et Saul Williams. Le film met en scène un mineur de coltan qui, suite à l'assassinat de son frère par un des gardes de la mine, décide de fuir son quotidien et d'aller rejoindre une communauté de hackers qui vit clandestinement au milieu de nulle part. Le film est un enchaînement de scènes, de chansons, de poèmes et de voyages oniriques, le tout porté par une esthétique tout en couleurs et bardée de composants électroniques. Une rencontre entre la poésie, la politique, les traditions et les nouvelles tendances, ce que l'on croit acquis et ce que l'on cherche à construire. Un voyage étrange et qui amène à se questionner sur tous les codes, le tout sur fond de ressources minières, du pouvoir qui est en nous et des risques que l'on encourt quand on décide de ne plus cautionner un système et de le combattre. Et si l'on pourra, selon les goûts et les attentes, trouver Neptune Frost bizarre, déroutant, parfois confus, voire un poil indigeste, le film a le mérite de nous sortir de notre zone de confort scénaristique et de stimuler la curiosité envers tout ce que l'on voit à l'écran. Des références aux costumes, en passant par les répliques et pléthore d'événements visuels. Tout ça est posé là, sans mode d'emploi, libre à nous de décrypter les messages et de nous emparer des thèmes qui nous sont montrés, comme celui de la communauté, de la révolution ou encore celui de l'identité. Qui sommes-nous et par rapport à quoi ? Le film nous fait nous questionner sur le fond de réalité qui occupe les rêves et la part de fantasme que l'on projette dans cette réalité. Neptune Frost est sorti le 3 juin dernier aux États-Unis, mais à ce jour, il n'y a pas de date de sortie annoncée en France. L'Astronaute, un film de Nicolas Giraud et Stéphane Cabel avec Nicolas Giraud, Mathieu Kassovitz, Hélène Vincent et Bruno Locher. L'histoire de Jim, ingénieur en aéronautique, qui se consacre depuis des années à un projet secret et hors norme, construire sa propre fusée chez lui et accomplir le premier vol spatial habité en amateur. Son père essaie de le raisonner, sa grand-mère chez qui il vit est déjà plus bienveillante à son égard, ce qui crée des tensions dans la famille. Pour mener à bien son projet, Jim a besoin de s'entourer de talents qu'il n'a pas. Il fait donc appel, en plus de son ami du club de modélisme qui met au point un carburant expérimental pour le moins instable, à un astronaute à la retraite un peu marginal interprété par Mathieu Kassovitz. Bien sûr, ce film nous parle persévérance, mais là où beaucoup d'autres productions abordent le sujet de manière un peu cliché, avec un optimisme béat, le film traite la chose avec une intelligence et une sensibilité certaines en nous présentant la persévérance sous un angle plus réaliste, avec sa part d'inconnu, d'incertitude, de risque, de peur et les réactions qu'elle peut susciter dans notre entourage proche. La ligne de partage pour les personnages étant de s'accrocher à la sûreté du réel et du cadre d'un côté, ou au contraire, de vouloir s'affranchir du cadre pour changer le réel. Chacun des protagonistes prend, à sa manière, la mesure des enjeux de ce projet pour le moins ambitieux. Le film interroge sur ce qui nous pousse parfois à accepter le cadre qui nous est donné, ou bien à le remettre en question. Et là où, dans les récits de ce genre, on a plutôt l'habitude d'un personnage persévérant seul contre son entourage incrédule, ici, l'écriture des personnages, sans manichéisme, nous fait comprendre chacun de leurs doutes, points de vue et motivations, et créer de l'empathie pour chacune et chacun d'entre eux. Ce qui n'empêche pas le film, bien que réaliste sur ce point-là, d'aborder une belle dose de poésie et de rêve, et de nous tenir en haleine jusqu'au bout, grâce à une interprétation juste et une réalisation maîtrisée. Un régal. Mon coup de cœur de cette édition 2022 du FFA. La sortie est prévue le 15 février 2023. Simone, le voyage du siècle, un biopic sur la vie de Simone Veil, réalisé par Olivier Dahan avec Elsa Zilberstein, Rebecca Marder et Élodie Boucher. Le film, dont la sortie est prévue le 12 octobre, retrace le parcours de la magistrate et femme d'État Simone Veil, de son enfance jusqu'à ses vieux jours, en passant par son parcours professionnel et politique et son passage par la déportation lors de la Seconde Guerre mondiale. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le film voit grand, dans sa durée, dans ses décors, dans le nombre d'actrices qui incarnent Simone Veil à différents moments de sa vie. Le réalisateur Olivier Dahan, plutôt que de nous retracer le destin de cette femme de manière chronologique, prend le parti de jongler entre les époques d'une scène à l'autre, comme pour mieux les mettre en perspective et nous suggérer que Simone Veil, du fait de son parcours, avait très certainement des souvenirs très vifs de son passé tout au long de sa vie. On y suit donc son enfance, sa déportation, ses rencontres d'après-guerre, sa bataille pour être magistrate dans un milieu très masculin, son ascension de ministre, députée européenne et présidente du Parlement européen, une fonction qu'elle fut la première femme à incarner. Puis, ces dernières années, et l'héritage qu'elle souhaitait laisser au monde, le tout ponctué de citations et références inspirées d'images d'archives. Au vu du parcours de Simone Veil, le film est très sérieux, le ton est solennel, grave, et on peine à imaginer qu'il en aurait été autrement. Deux petits reproches à faire cependant. Le fait que le film, de manière répétée et de la bouche même du personnage de Simone Veil, nous assène qu'elle ne fait pas de politique et que son combat et ses prises de position n'ont rien à voir avec cela. Peut-être l'a-t-elle réellement dit, mais toujours est-il que le film nous martèle ça au premier degré, semblant vouloir nous dire qu'il ne faut pas considérer la teneur politique de ses combats, ce qui, dans le cas de Simone Veil, est quand même quelque chose de difficile au vu de la portée éminemment politique de ses actions et des fonctions qu'elle a occupées. Qu'elle n'ait pas eu de but carriériste et que son combat dépasse les partis politiques est tout à fait entendable. Mais il y a une différence entre apartisan et apolitique. Et le film semble semer la confusion entre les deux. Deuxième petit reproche, le fameux syndrome du biopic qu'on peut retrouver dans les œuvres de ce style. On ne choisit pas les sujets des biopics au hasard et il est évident que les personnes mises en scène ont eu une vie exceptionnelle. Mais d'un avis très personnel, on gagnerait plus à souligner le côté initialement ordinaire des personnes représentées, ce qui renforcerait leurs actions extraordinaires ensuite. Au lieu de ça, à la manière d'un Bohemian Rhapsody, bien que dans un style plus sérieux, le film a tendance à iconiser Simone Veil, la montrant comme une super-héroïne quasi infaillible, ayant toujours le bon mot et la bonne réaction face aux épreuves. Comme si tout était inné, naturel, ce qui d'une part atténue les effets qu'un parcours de vie peut avoir sur une personne, et d'autre part crée un personnage moins perfectible, donc moins humain, plus hors sol. Je ne pense pas, ceci dit, que ce point-là empêchera le film de trouver son public, et peut-être même que votre ressenti sera très différent du mien quand vous irez le voir. Mais j'aurais apprécié plus de subtilité dans la représentation du personnage. Néanmoins, le film a le mérite de porter aux lumières le parcours incroyable d'une femme, à l'heure même où les questions qu'elle soulevait continuent de se poser. Et si cela permet à un jeune public de fouiller les archives et de s'intéresser à la vie de la véritable Simone Veil, on ne va pas y trouver quoi que ce soit à redire. Et enfin, dernier film vu lors de ce FFA 2022, Arrête avec tes mensonges, réalisé par Olivier Payon, adapté d'un roman de Philippe Besson, avec Guillaume de Tonquédec, Victor Belmondo et Guylaine Londès. L'histoire d'un auteur littéraire à succès, qui après 30 ans de vie parisienne et internationale, revient dans sa région natale pour y présenter une nouvelle et faire un discours sur ses racines. Lors d'une séance publique de lecture, il dédicace son livre à un jeune homme qui lui rappelle étrangement quelqu'un, un amour de jeunesse. Et ce n'est pas un hasard, car il se trouve que c'est le fils de cet amour de jeunesse qui vient innocemment lui poser quelques questions sur son père, décédé il y a peu de temps. Le film, à mesure que les protagonistes apprennent à se connaître, nous dévoile peu à peu des choses sur le passé et le présent des différents personnages. Le dosage entre les tensions dramatiques et les ressorts comiques permet au film d'être surprenant et captivant et crée de l'empathie pour les différents personnages, qu'on soit concerné ou non par l'histoire qui est racontée. Nul besoin de s'identifier pour apprécier, on découvre et on vit l'intrigue avec eux. Des personnages de plusieurs dimensions et subtilement écrits, ce qui permet aux actrices et acteurs de jouer avec du relief et le résultat est très plaisant. La sortie du film est prévue le 18 janvier prochain. C'était une belle surprise pour finir ce festival. Voilà pour mon FFA 2022, la suite sur Attitude. Merci d'écouter Attitude. On continue cette émission spéciale cinéma avec la sortie aujourd'hui du film Jumeaux mais pas trop, une comédie avec Ahmed Silla, Bertrand Huskla et Pauline Clément, histoire d'un jeune espoir parisien de la politique parachuté en Charente et qui découvre par hasard qu'il a un frère jumeau. Même surprise pour son frère jumeau qui lui est un dépanneur électroménager. Petite particularité cependant, l'un est blanc et mène un train de vie bourgeois, l'autre est noir et vit dans un quartier populaire. Ils n'ont absolument rien en commun, mais ils vont devoir apprendre à se connaître. Vendredi 9 septembre, l'équipe du film Maxime était présente au CGR Angoulême pour un point presse. J'ai eu la chance de pouvoir y assister. Merci aux équipes du CGR. Une comédie tournée à Angoulême et dans les environs. Et forcément, quand on rencontre l'équipe du film, on a plein de questions à leur poser, notamment celle-ci. Pourquoi avoir choisi Angoulême et la Charente pour tourner ce film ?
On a vécu des choses magnifiques ici. La magie s'est opérée ici. Je ne juge pas de la qualité du film, c'est pas à moi de le faire, mais en tout cas de la qualité du tournage et de tout ce qu'on a vécu, quand ça se passe aussi bien, il y a une part de magie. Et c'est ici que ça a eu lieu, donc forcément la ville nous a prêté chance, et par ailleurs on a été hyper bien accueillis et on a passé des très bons moments, même en dehors du tournage.
Justement sur le choix des lieux de tournage, donc on reconnaît bien la ville d'Angoulême à différents moments du film. Est-ce que c'était un choix dès le départ de mettre en scène un jeune politicien formé à Paris et parachuté dans sa province natale, ou est-ce que c'est la possibilité de tourner en Charente qui vous a amené après à revoir le script et adapter l'histoire?
Réponse A,
d'accord. Dès le départ c'était Angoulême.
Ouais. Non, réponse A, c'est pas l'opportunité de tourner en Charente, c'était effectivement de raconter un parachutage d'un politicien parisien qui retourne vers sa ville natale, mais c'est vraiment du parachutage, c'est ça qu'on voulait raconter. Et après, le choix d'Angoulême, il y a beaucoup de raisons, mais on voulait une ville moyenne, on voulait une ville qui soit pas connotée, sur laquelle les gens n'ont pas d'a priori, dans une ville dans laquelle il n'y a pas un accent de ouf, on n'est pas en Corse, on n'est pas je ne sais où, et politiquement qu'on ne sait pas trop situer. Quand vous allez dans le sud de la France, on le situe assez facilement, dans le nord, etc. Donc, et par ailleurs, on savait qu'on serait bien accueillis aussi ici, parce qu'il y a pas mal de tournages, qu'on n'est pas très loin de Paris, que tout ça correspondait parfaitement à ce qu'on voulait raconter. À partir du moment où on commence à écrire une histoire qui se passe quasi intégralement dans une ville, forcément on s'y intéresse, on se renseigne, donc on est venu beaucoup. On a une grosse partie de l'équipe du film, et notamment une grosse partie des techniciens, les régisseurs sont des gens d'ici, donc on a eu la chance de visiter tout en long, en large, en travers, très en amont, ce qui a aussi permis de peaufiner l'écriture. Et c'est ce qui fait que, en effet, j'imagine que quand on est de la région, il y a des choses qui sonnent vraies, puisqu'on a raconté des vrais lieux, avec des vraies logiques entre ces lieux. Ce n'était pas une connaissance préalable de notre part, même si, pour l'anecdote, bon, j'avais raconté ça, mais moi, ma grand-mère est née ici. Voilà, bon, je vous le dis. Et elle s'est mariée ici également. Ça date pas d'hier, hein, je vous cache pas.
Et ça permet aussi de pas dénaturer le lieu, c'est-à-dire de l'ancrer dans le film et d'en faire quelque chose de partie prenante du film. Ça permet à ce que les gens, voilà, qui sont Angoulême, on est tous un peu chauvins de notre région, les gens qui sont nés dans le terroir et dans la région, ils aiment bien se dire « Ah bah tiens, je reconnais cette rue ». Donc ce sera des private jokes pour les gens d'Angoulême et les gens de Charente. Mais ça permet aussi à ce qu'ils se disent les petits Parisiens sont venus dans notre ville, ils ont respecté, ils ont fait participer des figurants d'ici, et faut voir la joie qu'ils avaient de pouvoir participer au film, que ce soit pour une figuration, une silhouette. C'était agréable à voir. Et on a vraiment échangé, on a même partagé des cheeseburgers avec toute la cité Bel Air.
Il y a un truc qu'on n'avait pas prévu, c'est avec Jean-Paul, qui est le co-scénariste du film. Quand on écrit un film, on invente des noms. Et on a inventé des noms, et on nous a dit après coup que ces gens-là existaient vraiment à Angoulême. Il y avait un tel qui avait eu un mandat de je ne sais quoi. Beaulieu, Morand, apparemment c'est des noms du coin. Bon, on n'a pas fait exprès, donc on ne visait personne. Si jamais il y a, dites-le bien, si jamais il y a quelqu'un qui se sent visé, on ne les connaissait pas.
Sachant que vous travaillez toutes et tous dans l'humour et l'écriture, que ce soit des sketchs, des films ou des spectacles, est-ce qu'il y a eu au cours du tournage beaucoup des parts d'improvisation ou même de réécriture en commun de certaines répliques?
En fait, avec Bertrand et Ahmed, on a fait beaucoup de lectures avant de commencer le tournage, et pense que on a peaufiné les écritures à ce moment-là. Après, ce qui est des improvisations, il y en a toujours un petit peu, mais je pense que le script était déjà bien avancé quand on a commencé le tournage. Et après, Bertrand et Ahmed, vous pourrez dire tous les deux, mais même s'ils sont auteurs aussi, ils nous ont apporté beaucoup, parce que je pense que les comédiens connaissent mieux encore leur rôle que nous quand on les écrit. Donc forcément, dans le phrasé, dans la manière de penser un personnage, ils ont toujours des petites subtilités auxquelles on n'avait pas pensé quand on avait écrit. Après,
je trouve que c'est toujours une bonne nouvelle dans les films quand il n'y a pas d'improvisation à faire. C'est-à-dire que ça tient suffisamment bien pour qu'on n'ait pas besoin de rajouter grand-chose. Les moments d'improvisation qu'on a eu, c'est effectivement, on a beaucoup travaillé en amont, on a fait beaucoup de lectures à la table, beaucoup de répétitions, et puis parfois on se donnait aussi un petit peu de place à la spontanéité quand à la suite d'une nuit on avait une idée, on l'a partagée le lendemain avant la scène, on pouvait faire une surprise parfois au réalisateur, des trucs comme ça, mais globalement ce sont nos personnages, comme on porte vraiment l'intrigue, il n'y a pas eu trop d'improvisation à faire. L'improvisation elle arrive, j'ai l'impression, surtout quand il y a des numéros d'acteurs à faire, et c'était pas notre rôle dans le film. Il y en a eu, hein, Marc Rizzo, celui qui joue l'avocat, Monsieur Fraise, là, c'est vraiment lui. Pour lui, c'est une démonstration. C'était complètement. Lui, il est parti en live totalement. Mais c'était un peu ce qu'on lui demandait. La scène qu'on a tournée avec lui, moi, je me souviens, avec Pauline et moi, où on est en contre-champ. C'est marrant parce que quand j'ai vu la scène et elle dure, je sais pas, une minute trente et tout, nous, au tournage, elle durait une demi-heure, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'était l'histoire de Maître Fraise qui faisait du badminton avec les minimes, comment il les a coachés et tout.
Mais souvent, il y a plus la place pour les rôles secondaires pour improviser que sur les premiers rôles, parce que les réseaux sont obligés de suivre une ligne dramatique qui est quand même bien mise en place, alors que Marc, pour le coup, pouvait plus s'amuser avec ce rôle d'avocat. D'ailleurs, tu parlais de la séquence que vous aviez ensemble, mais la séquence où le tribunal avec Ahmed a été aussi, je pense, la journée de tournage qui a été la plus drôle pour nous, parce que Marc, voilà, il est complètement fou.
C'était dur.
La plus drôle et la plus chaude. Hein.
Ouais, c'était dur.
Chaud.
Mais au tribunal. Non, mais c'est hyper rassurant, en fait. Pour moi, par exemple, qui fait beaucoup de scènes, qui monte beaucoup sur scène et tout seul, c'est vrai que voilà, je peux me laisser aller à de l'improvisation. Ça permet de pas être essoufflé sur le texte, parce qu'on voilà, on répète le même texte un peu tous les soirs, 4-5 jours par semaine. Donc c'est vrai que les moments d'impro, c'est un peu jouissif. Là, au cinéma, c'est rassurant de se dire ok, j'ai pas besoin de faire de l'impro, parce que ça veut dire que le scénario est bien écrit, bien ficelé, et ça permet de vraiment se concentrer sur le jeu. Quand on arrive sur un plateau et qu'on doit se concentrer sur le texte, qu'est-ce que je peux rajouter pour être plus drôle, qu'est-ce que je peux rajouter pour que ce soit plus con, en fait on en oublie de jouer, et ça dessert un peu le film. Là, pour le coup, vraiment c'était très très bien écrit, et nous, ça nous a permis de penser à des choses nouvelles, de les tester, d'avoir le temps de les tester. Si ça marchait, tant mieux. Si ça marchait pas, on revenait au truc initial et on passait à autre chose. Donc c'est non, là il y avait un vrai travail d'écriture. Les trois loustiques là, ils se sont bien démenés les méninges.
Du coup, ça permet de rester dans le personnage un peu plus en étant mieux dirigé. Moi, j'ai une question sur la distribution des rôles. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait des rôles qui étaient quand même écrits sur mesure pour vous? Ou est-ce qu'au final, il y a eu un peu de casting? Vous avez testé différentes choses? Vous êtes réparti ça comment?
Je sais pas, Olivier, ce que tu en penses, mais nous, je pense qu'on a eu la chance. Je sais pas si c'est la chance du premier long métrage, mais en fait, tous les gens qu'on voulait, ils nous ont dit oui. C'est-à-dire que vraiment, ça c'est aussi la qualité d'écriture de mes camarades, parce que moi je les ai rejoints, ils avaient déjà beaucoup avancé sur le scénario. Ils nous ont dit oui, alors j'espère qu'on aura cette chance après sur nos prochains longs, mais peut-être pas. C'est vraiment ceux qu'on voulait qui nous ont suivis. Donc déjà, on trouvait que Isabelle, physiquement, pouvait très bien être la mère de Bertrand. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu des montages sur Internet avant même, voilà, où on se demandait si c'était pas sa maman, donc ça correspondait. Et Gérard, parce qu'on avait très envie de tourner avec lui. Et Jean-Luc, parce que je parle d'eux, hein, mais parce que c'est les rôles qui jouent un peu les, voilà. Jean-Luc, parce qu'on a beaucoup d'affection et que on aime beaucoup mixer un peu les générations aussi dans nos castings. Et on trouvait ça beau, cette transmission entre la génération de Jean-Luc Bideau et celle de Ahmed. Et voilà, je pense que ça sert aussi le film quand on parle de la famille, c'est bien qu'on mixe aussi différentes familles de cinéma.
J'ai une question pour Ahmed Silla et Bertrand Musclat. Dans le film, les deux personnages principaux donc apprennent à se connaître tant en passé. Est-ce que c'est le cas également pour vous en tant que comédien? Vous connaissiez bien avant le tournage ou vous avez appris à travailler ensemble un peu comme vos personnages?
On se connaissait pas. On se connaissait par réseaux sociaux interposés, quoi. C'est-à-dire qu'on se suivait dans nos parcours respectifs. Pour la petite anecdote, je lis souvent les scénarios que je reçois. Je les lis tous et j'essaye de les faire lire un petit peu à mon entourage pour voir ce qu'ils en pensent. Et là, mon grand frère a lu le scénario, on l'a lu en même temps, et il m'a dit « c'est incroyable, le rôle du politique, je vois grave Bertrand Huskla ». Et moi je fais ouf, donc je retourne voir un peu les vidéos de Bertrand, et là je tombe sur une vidéo où il joue un homme politique, je me dis ben ouais, c'est le mec, quoi, en fait c'est vraiment lui. Donc c'était marrant quand et ça c'était avant qu'ils me disent, Wilfried et Olivier, tiens, on a pensé à Bertrand Huskla.
Ça fait partie de la magie dont on parlait.
Donc c'est des petits signes, on se rattache aux signes, hein, dans la vie, mais c'est des petits signes qui te disent, qui te font dire ok, on est sur la bonne voie, quoi.
J'ai une question pour Pauline Clément. Vous êtes arrivée à quel moment sur le tournage? Là aussi, c'était un rôle qui a été fait pour vous.
Bah, moi, je suis arrivée quand vous m'avez appelée. C'était un peu au début. Et je suis venue, j'étais là aussi pour faire des lectures avec les garçons. Donc, j'étais là aussi au début pour parler des personnages, dire si ça porte bien.
Du coup. C'est la première fois que tu parles. Donc, je veux qu'on t'entende.
Mais j'ai pu participer à ces lectures avant et c'est vrai que c'était hyper intéressant de pouvoir faire ça avant le film parce que du coup on pouvait vraiment parler en profondeur, se rencontrer, ça faisait des répètes et c'est vrai que souvent au cinéma il n'y a pas de répètes et du coup le premier jour de tournage on partait pas de zéro, il y avait déjà un passif, on se racontait déjà des choses dans notre tête et aussi je sais pas, la première scène, le premier jour avec toi, c'était une scène où je devais pas être très sympathique.
Oui.
Et du coup,
j'ai un peu mal pris d'ailleurs.
Ouais. Du coup d'avoir fait des lectures avant, bah, on se dit ok c'est bon, on s'est croisé, c'est déjà plus facile que d'arriver le premier jour avec quelqu'un et de jouer genre un truc un peu où tu te dis ce n'est pas moi qui pense ça mais c'est mon personnage. C'est toujours plus facile d'avoir...
Non, mais ça c'est parce que t'as une bienveillance, j'en profite. En vrai, quand j'ai commencé le cinéma, je me suis dit ah putain j'aimerais bien tourner avec un tel, donc c'était que des noms connus. J'aimerais bien tourner avec un tel, j'adorerais tourner avec un tel. Et je me suis rendu compte que j'ai pris beaucoup plus de plaisir, en règle générale, à tourner avec des gens qu'on voyait pas trop au cinéma. Et là, sur ce film, vraiment, je vous assure, j'ai tourné avec deux Rolls-Royce et j'espère et je leur souhaite qu'ils auront une carrière incroyable parce que Pauline Clément, de la Comédie Française, j'adore ça. Je lui ai demandé si je pouvais l'acheter, le petit encart. Je pouvais le louer, de la Comédie Française. Je trouve ça d'une classe incroyable. Ça a autant de classe que son talent et ce qu'elle dégage sur un plateau. Elle est d'une précision. En fait, c'est déstabilisant. Il y a des prises où elle jouait. Moi, des fois, j'en demandais une pour être un peu mieux. Donc, c'est-à-dire qu'elle relevait, en fait, elle tirait vers le haut. Tu vois ou pas? Il y avait ce truc-là où je me disais, putain, truc. Et Bertrand, pareil. En fait, j'ai pas fait d'école de comédien, j'ai pas fait d'école de théâtre, j'ai pas suivi un circuit classique, entre guillemets. Donc, je suis obligé d'apprendre avec les gens qui m'entourent, avec les metteurs en scène. J'apprends sur le tas, en fait, un peu. Et donc c'est vrai que quand je joue avec mes partenaires, c'est pas une question d'orgueil ou ah putain il est mieux que moi ou quoi ou qu'est-ce, mais je me disais ah tiens ok s'il a été aussi bon, il faut que je sois un peu plus truc. Il y a Bertrand et des fois il me soufflait quoi. Je disais putain il est vraiment très fort, il est vraiment très fort. Alors lui il doute tout le temps, c'est-à-dire qu'il joue une scène il a l'impression d'être nul, mais c'est vraiment deux génies. Vraiment je le signe, je le répète. C'est des visages comme ça que j'ai envie de voir au cinéma. Il y a des films que je citerai pas où je vois des acteurs, des fois je me dis mais non mais c'est pas possible. Comment ils peuvent être là, à ce niveau-là, et on les plébiscite de dingue, alors qu'ils sont nuls, quoi. Et là, j'ai envie de les voir plus souvent, dans des films. Enfin, ils peuvent tout jouer, quoi, vraiment.
Alors, on n'aime pas trop, mais on aime quand même, un peu, quand même.
Mais c'est vrai, c'est très déstabilisant.
Moi, j'ai des scènes avec Ahmed où, sur certaines scènes, Ahmed me coachait carrément, il me poussait. C'est-à-dire que tu dis, on est super, mais il y a quand même des moments où tu as dit, on en refait une, Bertrand, lâche, vas-y, et tout. Et c'est aussi assez agréable de bosser avec des gens qui n'ont pas d'orgueil et qui ne sont pas là pour se dire, je vais être mieux que toi ou je ne sais pas quoi. On était là pour que le film soit super. Et pareil, pour enfoncer aussi un peu Pauline, parce qu'elle ne le dit pas, mais c'est quand même drôle. On parle de parcours singulier avec Pauline et je suis toujours moi hyper admiratif, ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant, mais Pauline c'est quelqu'un qui a pas le bac, qui a pas le brevet des collèges, qui était une espèce de déchet scolaire, qui a été foutu dehors très très vite. Elle a vraiment une orthographe d'enfant en difficulté encore aujourd'hui, c'est-à-dire que quand elle écrit on dirait une blague, on dirait vraiment un aveugle qui joue au Scrabble quoi. T'as fait une école de menuiserie, d'électricité aussi.
Oui.
T'es pas allé au bout.
Esthétique.
Et t'as eu ton CAP d'esthétique. Et pouf, par hasard, t'es rentré à la Comédie Française. Et je trouve qu'il y a un parcours, en fait, je trouve que ça se voit dans la fébrilité, la force du personnage. Elle joue quand même quelqu'un qui a fait Sciences Po, en fait, dans le film, et je trouve qu'on y croit.
C'est incroyable.
Et bravo, quoi. Enfin, je trouve ça fou. Je trouve ça fou parce que j'ai l'impression que tu peux jouer des idiotes, tu peux jouer des gens brillants. Et pour moi.
On m'écrive le texte, hein,
ouais, mais faut le jouer. Et pour moi, c'est le truc qui. Je crois qu'il est dur à faire, c'est jouer des personnages à des degrés d'intelligence différents. Je pense que c'est très très compliqué quand on a un type brillant de jouer un type idiot. Un bon exemple, Martin Freeman par exemple. Je sais pas pourquoi, je pense à lui, mais je trouve qu'il joue très bien les idiots alors qu'il est brillant, il sait faire les deux. Enfin, je suis fasciné par ça. Et je trouve que toi, t'as une espèce de palette que je trouve incroyable.
C'est ça, c'est ouf.
Un peu. Comme tu parles pas, on parle de toi.
Mais c'est Cluzet qui disait là il y a pas hyper longtemps que le cinéma en fait pour faire un bon film il fallait le partager. C'est la première fois que je fais autant d'avant-première, autant de conférences de presse pour un film. c'est vous dire à quel point je l'aime et je le défendrai jusqu'à, même s'il fait 150 000 entrées. S'il fait 150 000 entrées, je leur ai dit d'effacer mon numéro de téléphone. Pour revenir à ce que disait Cluzet, c'est un vrai film de partage. Et ce qu'on a partagé là, c'était, en fait, dès le début, moi, j'ai pas eu peur de ma place. C'est-à-dire, j'ai pas eu peur de genre de mon premier rôle. Il faut que je défende mon premier rôle en disant c'est moi le premier rôle. Il faut que j'ai la plus grosse loge. Il faut que j'ai le. Non, je m'en foutais. En fait, j'avais vraiment juste envie qu'on soit tous bons. Et je pense que Bertrand, il l'a senti. Moi, je l'ai ressenti. On n'était pas en friction, quoi. On était vraiment le plus, le moins, et on inversait parfois les rôles, quoi. Il y avait tellement pas d'orgueil entre nous. Je vous jure, des fois, je tentais des vannes et il me disait, ouais, non, je vous assure. Dites à un humoriste que celle-là, elle est pas ouf. Cette vanne-là, elle est pas non. Je vous promets que ça peut, mais vraiment réduire à néant le film. Et là, je disais, ok, bah vas-y, viens, on passe à autre chose et tout. Enfin, c'est le meilleur tournage que j'ai fait. Il était difficile que dans le jeu, c'est-à-dire voilà, tout le temps se pousser. Il y a eu aucune embrouille. C'était magique, quoi. J'en ai fait 10 et j'ai pas vécu ce que j'ai vécu sur ce film.
Et nous, c'est vrai qu'on s'est fait accueillir. La première fois qu'on a rencontré Ahmed, on était tous les trois à la même avant-première. Oui. Il y avait Ahmed avec une veste brillante, on voyait que lui dans la salle, une veste magnifique. Et à la fin du film, il nous a ouvert les bras, il a dit trop content de bosser avec vous. Et c'était tout de suite, on est reparti, on a repris le métro ensemble. Et on s'est dit, oh, trop cool, ça va être génial. On a tout de suite senti un truc qui circulait. Avec les bras ouverts et la veste brillante, on s'est dit, génial.
Ahmed a dit tout à l'heure, le fait d'avoir le choix sur un rôle qui n'est pas voilà, taillé dans un espèce de cliché où on se dit, bon voilà, je vais encore mettre les deux pieds dedans et plonger dedans. Est-ce que c'est important aussi pour vous de pouvoir d'avoir un droit de regard déjà, et aussi une possibilité d'écrire un peu les personnages féminins pour éviter qu'ils tombent, justement, là aussi dans les mêmes clichés?
Oui.
Si je peux me permettre, oui. N'y voit aucune offense, il faut toujours faire attention aujourd'hui en 2022, mais je pense que à l'heure où on essaye de replacer la femme à sa place, dans le sens où en fait elle compte dans la société, je trouve que c'est un vrai film de femme en fait. C'est-à-dire que c'est marrant, mais les deux personnages principaux, bah, c'est Bertrand et moi, mais en vrai, c'est deux femmes qui tiennent le film. C'est-à-dire que c'est la recherche de notre maman biologique, et c'est Pauline qui fait le trait d'union entre Bertrand et moi, qui va voilà jongler entre ces deux personnages, enfin de manière incessante quoi, jusqu'au reveal. Et je trouve que c'est un vrai film de femme. Je trouve que c'est un bel hommage qu'on rend aux mamans en vrai, ce film.
Et l'enjeu, c'est un vrai
de tolérance.
Ouais, ce qui était chouette à jouer, c'est vrai que c'était l'enjeu de qu'elle découvre toute cette histoire, qu'elle cache le truc. Il y avait tout un petit parcours avec où est-ce que j'en suis de les scènes où ça y est, ils savent, les scènes où ça se passe bien, les scènes où je dois cacher. Il y avait tout ce petit parcours qui était chouette à faire. Et sinon, pour quand on regarde qu'est-ce qu'on nous propose comme rôle, moi je regarde surtout si ça m'amuse, si je vois des enjeux. Je me pose pas la question de la. Il faut que la fille ait de la personnalité, mais des fois j'ai pas envie de jouer des personnages lisses ou que des gens intelligents, que des gens machins. J'aime bien, surtout, le plus important c'est qu'il y ait de l'enjeu, parce que le pire c'est quand il n'y a pas de situation et que t'as rien à jouer. Ça c'est le plus terrible, même si tu joues un personnage très intéressant, enfin très brillant, très bien. Politiquement correct, mais qu'il a rien à jouer, c'est le pire. Alors que là, j'aimais bien tout ce parcours de ce truc qu'elle essaie de cacher, les bourdes et tout ça.
Et là, moi, j'ai eu beaucoup de chance aussi, c'est que globalement, le rôle était écrit pour Ahmed. Dès le début, vous l'avez très tôt intégré au pitch, à l'écriture, au développement du projet. Donc le film s'est monté sur lui pour une bonne raison. Il n'y a que lui qui est assez bon pour le faire et qui a une fanbase suffisamment large pour financer un film. Moi, mon rôle, je pense qu'il aurait pu être joué par une bonne dizaine d'acteurs en France encore. Peut-être des mecs qui auraient fait plus d'autres films, je sais pas quoi. Et le fait d'avoir une première chance de la part de Olivier, Wilfried et producteurs, mais aussi d'Ahmed qui a dit je suis d'accord pour lui donner une première chance au cinéma. Voilà, c'est mon dernier premier film, il n'y en aura pas d'autres. Et vraiment, c'est eux qui m'ont donné la première chance. Et alors, ça, je suis absolument ravi de le rappeler à chaque fois. Parce que on avance en équipe et ils m'ont vraiment donné une.
Moi, je me souviens d'un truc, Ahmed, que tu m'as dit, je peux le révéler.
Ouais.
Tu m'as dit, on m'a donné, moi, cette chance pour l'ascension.
Ouais, c'est vrai.
Et je vois pas pourquoi je m'opposerais à ce qu'on donne sa chance à Bertrand.
Ah ouais,
c'est plus du fait que tu l'aimais bien, mais c'est vrai, il m'a dit ça.
Tu vois, tiens, on dit, ouais, c'est une famille. Moi, j'en ai un peu marre qu'on dise c'est une famille, parce que tu sais, t'as l'impression qu'après, plus personne peut rentrer. La famille du cinéma, genre, ok, bah c'est bon, il y a le groupe et plus personne peut rentrer.
Ou alors, il faut naître dedans et être un Garrel, par exemple.
Donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais ce qui est cool aussi, ce qu'on peut rajouter à ça, c'est que en fait, et ça Bertrand le dit souvent en avant-première, on vient d'endroits très différents, on a des parcours très différents, que ce soit scolaire, familiaux, etc. Et on s'est retrouvé là nos trentaines d'années plus tard pour jouer ce rôle. Et je pense que ça a servi, le fait qu'on ne se connaissait pas, de créer en fait un peu cette fraternité au fur et à mesure des répétitions du film. Ça a rajouté un petit peu. Si on avait été potes avant, je pense que ça aurait enlevé un peu de timidité, on apprend à se connaître quoi. Et je pense que ça a rajouté au film.
Et je me demande si ça n'aurait pas rajouté aussi de la timidité. Parce que moi, des scènes un peu d'émotion, d'ouvrir son cœur.
On avait de la pudeur l'un envers l'autre.
Voilà. Mais qu'aussi. J'imagine que moi, si j'avais joué ce film avec un ami très proche, je sais pas si je peux jouer qu'on est le nerf en commun et puis s'effondrer
Non, on est des bonhommes, on fait pas ça directement.
C'est bizarre. On a dû construire un rapport directement fraternel, en fait.
Au-delà de la fratrie, c'est aussi c'est un peu le rapport social, donc vous l'avez dit, entre la classe populaire et la classe bourgeoise, qui est un peu mis en scène dans le film. C'est le succès populaire, vous l'avez déjà rencontré avant la sortie officielle en gagnant le prix du public du Festival de la Comédie de l'Alpe d'Huez. Est-ce que vous attendez un peu le même accueil de la part du circuit plus conventionnel et professionnel de critique?
C'est incroyable, ça. En fait, c'est dingue parce que le cinéma, pour ma part, la vision que j'en ai aujourd'hui, moi c'est mon 10e film. Maintenant, je m'en suis rendu compte il n'y a pas hyper longtemps, je me dis putain c'est ouf, j'en ai fait 10 déjà. Et donc je vois un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire que nous on fait le travail, après le film est bon, pas bon, etc. Et, tout. Et en fait, après on a de prise sur plus rien. C'est-à-dire que c'est vous les journalistes et le public qui faites un peu le truc. C'est-à-dire que vous permettez de mettre une petite hype sur les films ou pas. Il y a des films qui vont être des surprises parce que les journalistes ont dit « allez voir ce film », etc. Le public aussi qui fait le bouche à oreille, qui fait le machin, etc. Donc en vrai, nous, ce qu'on espère, c'est que le film soit vu par le plus grand nombre. C'est un peu le jeu, ça nous permet de faire d'autres films, de financer d'autres films, etc. etc. Mais en vrai, je peux vous dire, ouais, on a envie d'avoir un Oscar. En fait, des fois, on lit des critiques qui sont hyper dures, quoi. Par rapport à ce qu'on... Nous, on sait pourquoi on a fait ce film, on sait comment on l'a fait, on sait à quel point c'est dur, on sait à quel point c'est compliqué de monter un premier film, de réunir autant de personnes, etc. Des fois, on lit des choses, on se dit, mais ils ont vraiment vu le même film que nous.
Et j'ai l'impression que c'est d'autant plus vrai en ce moment, il faut faire un choix, soit entre le film d'auteur qui va avoir des super étoiles, mais qui va se gaufrer en salle, on se dit, ah tiens, La nuit du 12 août est un succès incroyable, mais par contre, Menteur, c'est une daube. Et en fait, c'est assez drôle de voir les destins différents de ces films. On se dit que d'un coup, un énorme succès fait pas beaucoup d'entrées, et alors qu'un truc qui aurait des mauvaises critiques fait le succès populaire. Et de plus en plus, j'ai l'impression qu'on se dirige vers des camps à choisir. Et moi, là où je suis juste un peu content, c'est que sur les premiers retours qu'on a des journalistes, il y en a plein juste qui disent « Ok, vous m'avez eu ». Et en fait, moi, je trouve que ça, c'est le plus beau retour que je peux avoir pour l'instant, parce que Moi, je la revendique, le côté comédie populaire familiale. Je rêvais de faire un film comme ça. C'est vraiment, c'est limite politique, moi, je trouve, de dire on va faire un film pour les gens. Je trouve ça cool. Et que d'avoir juste un critique qui peut-être va dire, OK, c'est pas ce que je serais allé voir. Peut-être je suis allé voir ce film juste parce que c'est mon travail, en fait. Mais sinon, je serais pas allé le voir, et qui me dit à la fin, vous m'avez chopé, vous m'avez piégé, vous m'avez vu. C'est le même sentiment que j'ai eu, moi, en lisant le scénario. Donc, OK. Moi, si juste on a fait ça, ça peut rajouter un bonhomme Télérama qui juste me fait un petit. Voilà.
Non, mais en fait, on le sent. Après, je vous le dis, il y a aussi des films de merde. Il y a aussi des films qui méritent de se faire critiquer. Mais à partir du moment où les gens, ils font des efforts, ils essayent de se prendre la tête là sur ce film, moi, je sais à quel point on a bossé pour éviter tous les clichés, toutes les caricatures, tous les pièges qu'il pouvait y avoir sur un pitch aussi fragile, parce qu'en vrai le pitch est hyper fragile. On peut aller à la facilité, c'est-à-dire que Jean-Paul il peut écrire 14 vannes, il est très bon, hein, il a écrit des haches, voilà, à la chaîne, donc c'est facile de faire des vannes. On a justement évité tout ça, on a essayé de faire une petite intrigue, etc. Évidemment, un film il peut toujours être amélioré, il peut y avoir des trucs et tout, mais je sais pourquoi, les raisons pour lesquelles on l'a fait, quoi. Donc mais on le sent. Je veux dire, j'ai fait beaucoup de rencontres, mais de conférences de presse, j'en ai fait beaucoup, et je vous assure que c'est la première fois que je ressens autant de bienveillance sur un film de la part des journalistes. Je vous assure que c'est vrai. Les rares, je les situerai pas géographiquement, mais en province, on va dire que ça se passe très très bien.
Si vous voulez, l'idée, on parlait tout à l'heure de clivage.
Nous, l'idée, c'était tout de suite, le plus vite possible, sortir du noir et du blanc. En fait, le noir et le blanc, c'est le point de départ, c'est le titre, c'est le concept du film, et c'est ce qui nous a réunis. Hein. C'est une idée de producteur qui nous a réunis d'abord, Jean-Paul et moi. Et la réflexion, c'était, oulala, attention, comment ne pas faire un film potache à partir de ce concept-là? Comment ne pas tomber dans des trucs qu'on n'a pas envie de voir, des vannes, même sympathiques, mais un peu nauséabondes et tout? Bon. Donc nous, en fait, avec Jean-Paul, on a réfléchi à la manière d'éloigner ces deux frères autrement que par leur couleur de peau. Et donc c'est un éloignement géographique, c'est un éloignement social, et c'est un parcours de vie qui fait que, nés de la même mère, ils n'ont pas du tout eu les mêmes chances, les mêmes opportunités, etc. On s'est même dit à un moment donné qu'on aurait pu inverser le noir et le blanc. On l'a pas fait parce que dans la vraie vie, en vrai, c'est plutôt dans ce sens que on voulait pas sortir de quelque chose qui est enfin un jeune loup de la politique noire. On en voit malheureusement pas beaucoup, pour être tout à fait honnête. Mais du coup, pour éloigner nos deux personnages encore plus, rien de tel que d'en faire un mec, rien de tel que de partir sur un homme politique parisien, un peu imbu de sa personne, un peu sûr de son fait. On s'est inspiré de toute ressemblance avec des personnalités existantes est purement assumée, puisque bon, franchement, il y en a plein, il y en a à l'appel. On s'est bien amusé pour ça.
Je sais que vous en avez déjà parlé plusieurs fois dans la presse, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même les origines du film et comment est venue l'idée de départ, s'il vous plaît?
L'idée de départ, c'est une idée de producteurs. C'est vraiment nos producteurs, Jérôme Corcos et Antoine Peset, qui avaient lu un article sur le fait qu'il était réellement possible, ça c'est un fait avéré, qu'une naissance de jumeaux sur 1 million, en gros, donne 2 bébés de couleurs différentes. C'est vraiment, et l'explication qu'on donne assez succinctement, parce qu'on voulait pas faire un film scientifique non plus, mais dans le film, c'est la vraie explication sur pourquoi ça peut arriver, et ça peut vraiment arriver. Et il y en a une là récemment. Et les producteurs avaient eu cette idée de titre qui est quand même très bonne, qui est un titre très comédie certes, mais qui est un super titre. Donc c'est vraiment eux qui sont venus nous chercher au départ pour écrire. Et on a tellement pris goût à ce projet que j'ai proposé à Wilfried, avec lequel on travaillait déjà sur d'autres films, on voulait réaliser ensemble et tout, je lui ai dit franchement, et si on se positionnait pour le réaliser celui-là. Et donc Will nous a rejoint pour écrire, et les producteurs nous ont fait confiance. C'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Parce qu'ils n'avaient pas de réalisateur attitré sur ce projet au départ.
Ce qui est cool, pour rebondir sur ce que disait Bertrand, je pense qu'il peut y avoir une vraie magie, une vraie petite étoile sur ce film, dans le sens où, moi, franchement, j'y crois vraiment. C'est le film, pour l'instant, que j'ai fait, auquel je suis pas le plus attaché, mais en tout cas où j'ai un vrai sentiment de bien-être, quoi. Quand on voit la bande-annonce ou quand on regarde l'affiche, on peut se dire, ok, bon, ça va être un peu cliché. Je l'ai lu ici et là sur les réseaux sociaux, et on a posé cette question-là pendant des fois les avant-premières. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont arrivées avec en tête certains clichés et on a réussi à leur dire, ah, bah, en fait non. Et ce revers-là, je pense qu'il peut bénéficier d'un bon bouche à oreille, quoi. Il y a une espèce de, une petite, ça crépite, quoi. Ça m'excite un peu. Je cache pas que ça m'excite un peu. Ce film m'excite un peu.
Mais c'est que dans la forme, on peut s'attendre, voilà, comme vous l'avez dit, avec ses préjugés aussi, à une comédie qu'on a déjà vue. Et au final, avec les couches d'écriture et les différentes couches de scénario, on peut effectivement ressortir surpris et changer. Ouais.
Mais en fait, aujourd'hui, en France, on veut tellement pas regarder la réalité en face qu'on projette des choses dans notre tête qui sont parfois même utopiques, et on se dit ok, bah c'est cliché. Mais en fait, si on regarde bien, parce que j'ai lu par exemple, ok, le noir il vient d'un quartier et le blanc il est dans une famille bourgeoise, quand on regarde le film, on se rend compte que en fait c'est parce que j'ai été un petit peu malade au début, c'est pour ça que j'ai été adopté plus tard. Et quand on regarde, en fait, si on fait un dézoom sur la France, on se rend compte qu'il y a encore des noirs qui habitent dans des quartiers, quoi. J'adorerais, hein, moi, que dans les quartiers ce soit, alors tu vois, que des blancs, que des, non, on a encore ce truc là mais on veut tellement projeter, en fait, aujourd'hui j'ai l'impression que si on vient d'un quartier, c'est un peu nul, c'est enfermé, c'est pas bien, on peut pas s'en sortir. Mais là où ils sont intelligents dans l'écriture, c'est que je viens d'un quartier, j'habite dans le quartier, je m'exprime bien, je présente bien. Je suis pas un délinquant, je suis quelqu'un de normal, quoi. Mon personnage aurait pu tout à fait être n'importe quelle couleur. C'est ça qui est cool, c'est pour ça que j'ai accepté d'ailleurs de jouer dans le film.
Et voilà donc pour cette émission spéciale cinéma. Merci de l'avoir suivi, bonne journée à notre écoute et à bientôt sur Attitude.